qui est la société Occitane d'électronique qui l'a créée, pourquoi a-t-elle disparu jusque dans nos mémoires? Pour en parler, je reçois depuis le bunker de l'association Silicium, René Speranza, président fondateur de la dite association Silicium, historiographe de l'informatique, auteur à ce titre du livre Oxitel Mini édité par l'association Silicium et super partenaire de Tennis sur écran. CPU carré petit utile. Qui a créé cette entreprise? Qui est Jean-Luc Grandclément?
C'est un grenoblois athlétique, comme le décrivait la presse spécialisée économique de l'époque. Donc on est en 1975. Et Jean-Luc, on va l'appeler Jean-Luc hein, parce que ce sera plus court. Et Jean-Luc était directeur de l'usine de Bassocombo de Motorola. Donc les Toulousains se rappellent, pour les plus vieux, de cette usine à Bassocombo qui employait pas mal de gens. Et donc Jean-Luc, je crois qu'il est arrivé en 73 à la tête de l'usine. Et il était avant chez Alcatel. Peut-être que chez Alcatel, il a connu des gens, etc. Ça lui a fait du réseau. Et on peut imaginer tous ces capitaines d'industrie se connaissant. Et je ne sais pas pourquoi, en 1975, il quitte la boîte et décide de créer la société Occitane d'électronique. Alors, les témoignages qu'on en a décrivent un homme, un entrepreneur, un technicien, donc quelqu'un qui était quand même à même d'apprécier l'innovation technologique électronique. Il commence sa société fin 75 avec sa femme. J'ai des sources qui disent qu'en fait, à la base, c'était pas la création d'un jeu qu'il voulait faire, c'était de l'électronique appliquée, il y avait plusieurs projets. Rien ne voit le jour, il faut attendre début 76 pour que la console commence à prendre forme après un voyage aux États-Unis où ils ont vu ces fameuses puces que tu évoquais dans ton introduction.
Ça, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait déjà une concurrence à la Odyssey qui s'était créée.
Oui.
Il a été un petit peu surpris du prix modique et de la faible taille de ses consoles. Et il en a acheté pour ouvrir, pour regarder dedans. Quoi.
C'est ça. Alors, l'Odyssey, elle était déjà partie à la trappe. Elle a duré 2-3 ans seulement. Je crois qu'elle est sortie en 73.
2-3 ans, et 350 000 exemplaires vendus.
Bon, ça va vite aux États-Unis à Noël. On a vite fait de faire de beaux scores. Et après, c'est comme tu le disais, Bushnell avec Atari qui a démocratisé le Pong d'abord dans les bistrots avec la fameuse borne que tu as à côté de toi. Et puis ensuite à la maison avec la déclinaison familiale qui se branchait sur la télé. Donc là, ces premières versions étaient à composants entièrement analogiques. Et Magnavox, d'ailleurs, qui faisait la fameuse Odyssée, a sorti elle aussi des équivalents. Quoi. Donc c'était la première phase de la lutte du Pong. Donc dans ce tournoi de tennis électronique, rapidement, il y a des petits malins qui se sont dit « Oh, on pourrait peut-être faire un composant qui intègre tout dedans et on le vendrait à des constructeurs. » Ça ferait baisser les coûts, donc parce que bon, plus il y a de concurrence et plus les coûts sont limités. Donc c'était encore un moyen d'accroître les marges.
Plus tu fais du tirage.
Ouais, c'est ça. Donc General Instruments, qui est un fondeur US, a conçu cette puce, la 8500, de son petit nom.
AY3500,
ouais.
Oui.
Ouais, c'est ça, ouais. Et donc c'est malin comme truc. Il y avait tout ce qu'il fallait pour faire quelques jeux, un affichage avec et voilà quoi. Il suffisait de sélectionner sur les papates, mettre des interrupteurs. On avait le tennis, le foot, le hockey.
Ouais,
enfin, c'était tout le temps la même chose. Hein.
Ouais.
Et après, l'imagination faisait le reste. Hein. Et donc, ça a marché jusqu'en 1980, on va dire, pour ratisser large. Et évidemment, c'était quand même ultra limité. Et c'est tombé en désuétude aussi vite que c'est arrivé. Quoi. Parce que bon, le jeu amusait un peu, mais... Fallait pas exagérer. Et puis ensuite, comme tu l'as ensuite dit, il y a l'arrivée des consoles programmables. Et là, ça a enterré le Pong qui était complètement monolithique. Mmh. Alors que l'autre, l'imagination, était au pouvoir.
Je regardais justement un peu les caractéristiques de la Y3 8500, où en fait, on a des pattes et on a un signal vidéo quasiment qui sort par patte.
Ouais.
Soit pour afficher le score, soit la batte gauche, soit la batte droite, etc. Mmh. C'est assez extensible, en fait, comme concept, puisqu'on peut faire un affichage couleur justement à partir de là.
Après, c'est venu ça.
Il y a eu au moins 500 modèles de Pong, d'après ce que j'ai compris, qui ont été conçus avec cette puce. Il y a eu de la concurrence aussi, puisqu'il y a eu d'autres fabricants.
D'autres ont fait ça,
ouais. Il y avait déclinaisons effectivement PAL et NTSC et tout le reste. 500 modèles. Bon, alors je veux bien que la société Occitane d'électronique en a fait 5, je crois, c'est ça, de modèles là-dessus.
À peu près, ouais.
C'est absolument incroyable.
Ah, ils ont poussé le bouchon au maximum. En fait, ce qui se passait, c'est que vu la simplicité à créer et vu l'engouement du public, le moindre fabricant de jouets, le moindre distributeur avait envie d'en vendre une, quoi, parce que ça plaisait, quoi. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des milliards de modèles dans chaque pays, des trucs différents, et c'est ce qui fait l'intérêt de ceux qui aiment ces vieilles consoles. Ma foi, d'un intérêt relatif au niveau ludique, mais qui sont esthétiques, souvent, parce que ça reprenait les codes de ces années-là, où les machines avaient un style qui évoluait en quelques années, quoi. On passait du style orange, on en reparlera peut-être, au style techno-bois, etc. etc.
Ouais, le faux bois plaqué,
ouais,
le truc
tout...
métallique.
Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Après, c'est devenu noir, style techno, façon Cosmos 1999, etc.
C'était l'époque.
Donc, voilà, c'est ça, ouais. Donc, c'est ça qui est super. C'est le seul intérêt par rapport au Pong originel de ces déclinaisons, c'est de voir un peu comment ça a évolué.
Donc, ils ont principalement construit 5 modèles autour de ce chipset. On sait à peu près combien ils ont vendu en tout
En tout, non, on ne sait pas, mais les premiers chiffres des années 77-78, là, c'était plus de 100 000 hein, à chaque fois. Il y a les chiffres, donc c'est assez ils avaient l'essentiel des ventes françaises pendant un an ou deux, ce qui est assez étonnant. Il y avait un petit peu de concurrence, rapidement rejoint par des boîtes comme Seb, Moulinex n'en a pas fait, mais ils auraient dû, parce qu'ils en auraient sûrement vendu entre un hachoir à persil et un gaufrier. Mais beaucoup s'y sont mis. Et eux, ils avaient une avance, je pense, avec Commercial, disons. Et après, ils ont su s'adapter. C'est pour ça qu'ils avaient le nez fin au début. Je pense qu'ils ont eu tout le temps le nez fin, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à adapter leur produit qui était tout le temps le même, finalement.
Ouais.
La première console, elle avait 4 jeux. Après, ils ont bénéficié des déclinaisons de la puce pour faire des améliorations, mais globalement, c'était toujours pareil. Mais ils le vendaient sous des formes différentes. Vers 78, il y a eu la mode du talkie-walkie. Les enfants achetaient des talkie-walkie. Moi-même, j'adorais ça. Et y avait une version qui ressemblait à des talkie-walkie. Donc voilà. Et puis après, des designs stylés avec des couleurs orange, marron, noir, jaune. Enfin bon.
Alors justement, on va parler un petit peu du design parce qu'ils avaient vraiment un style absolument incroyable. Ils ont eu 2-3 modèles qui étaient vraiment boîtier orange arrondi avec des manettes qui étaient rondes.
Oui.
Est-ce qu'ils l'ont conçu en interne, ce boîtier ?
Non, ils ont fait appel à une société toulousaine graphique de design, quoi. Donc, ceci explique cela. C'est-à-dire, c'était quand même des spécialistes qui ont fait le dessin. Et la première était, je pense, faite par eux. C'est un pauvre parallélépipède orange parce que c'était à la mode. La deuxième, l'orange n'était plus à la mode 6 mois après, donc elle est devenue noire parce que c'était plus simple et puis que ça faisait plus technologique. Et puis après, ils ont fait appel au cabinet.
Avec l'espèce de manette ronde qui s'encastrait le boîtier et tout, c'est assez
incroyable. Ouais, puis avec des sérigraphies stylées de bonhomme et tout, des polices de caractère style avant-garde qui n'étaient pas hyper avant-gardistes d'ailleurs, mais qui étaient symboliques de cette époque-là. Donc ça, c'est assez intéressant.
On est quand même à une époque où il n'y a pas la Péritel, où il faut brancher sur l'antenne et tout le reste, où la mise en œuvre, elle n'est pas évidente, hein, puisqu'il faut régler la bonne chaîne sur laquelle
Ça se faisait, ça encore. On y arrivait, hein. Sur une pauvre télé noir et blanc, parce que les enfants, ils avaient surtout la vieille télé noir et blanc. Et voilà, quoi.
Mais t'avais peu de familles qui avaient deux télé.
Ouais, c'était rare, ouais, c'est vrai, ouais. Non, c'est vers 78-79, l'arrivée de la télé couleur a fait que le poste noir et blanc était relégué dans la chambre des enfants, souvent, c'est ce qui se passait. Et donc, ils pouvaient profiter de la console un temps.
Sur l'Occitel, ils ont très vite accaparé une bonne partie du marché français, mais ils ont débordé un petit peu des frontières où finalement ils sont surtout restés français.
Alors c'était surtout français, je pense qu'ils ont peut-être été en Belgique, tout ça, il y a dû en avoir un peu, en Suisse, peut-être en Espagne, il y a quelques modèles d'export. Par contre, ce qu'ils ont fait qui est intéressant, c'est qu'ils ont créé des consoles pour des tiers, par exemple...
Oui, ils ont été très producteurs en marque blanche, en fait.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc il y avait, par exemple, une société de jeux qui s'appelait Rollet, une boîte française qui importait du jeu d'Extrême-Orient. Alors, il leur avait fait une console, donc une adaptation. Et après, il y a une autre variante qui est assez sympa, qui a été faite pour les SAFT, Croft, la société Poitvine qui faisait des piles, et donc une version qui ne marche que sur piles.
Ah et, bon
à y être, hein.
Ah bon. Comme je suis surpris.
Ouais. Donc d'une de leurs consoles phares, quoi. Toujours designée par le studio toulousain. Voilà, il y a quelques exemples. Alors, c'est pas évident parce que, en fait, ces exemples, on les a retrouvés, nous, par hasard, en cherchant, en démontant, en voyant que, tiens, c'est dedans, ou en voyant...
Oui, c'est sérigraphié dedans.
Ouais, voilà, fois, ouais, sur les cartes mères. Ou alors, des fois, il y a des airs de famille, on voit que le studio...
Puis comme c'était une puce très répandue, avec toujours les quatre mêmes, quatre ou six jeux, savoir si c'était un fabricant ou un autre, c'était
c'est
pas toujours
difficile,
évident.
Mais quand tu vois le panneau qui ressemble vachement, ou les manettes rondes dont tu parlais, que tu retrouves, tu te dis, là, il y a un truc, donc tu démontes et tu t'aperçois que c'est une carte mère de la société occitane.
Donc là, ça a été aussi l'un des travaux, je vais dire, historiographiques de Silicium, de regarder en fait dedans, mais comment ça marche.
C'est ça. Depuis 27 ans qu'on existe, on a à cœur de cette société occitane, on a à cœur de hacker les consoles de la société occitane, parce qu'il y a quelques-uns de nos membres qui étaient jeunes à cette époque-là et qui étaient néanmoins toulousains et qui l'ont reçu à Noël. Et alors, certains nous l'ont aimablement offerte, et donc ils se rappellent des souvenirs, bon, pas beaucoup de souvenirs quand même, hein. C'est rare, son truc, oh, je jouais des années durant, ça n'arrive jamais. Mais par contre, ouais, à Noël, ils l'ont reçu, donc du coup, on s'est dit, bon, ça, nous, on est Toulousains, c'est un minimum, c'est quand même d'essayer de préserver ce patrimoine. Mmh. Et c'est pas évident.
Juste une chose d'ailleurs pour en revenir au design, point que j'avais oublié de poser dans la question, c'est que des fois ils s'embêtaient pas trop sur le copyright, puisque je crois qu'il y a une console avec les anneaux olympiques dessus. Tu fais ça actuellement, à mon avis, défoncer par la.
Oui, mais peut-être qu'à l'époque c'était un peu plus.
C'était plus relax.
Ouais, je pense qu'il y avait. C'était moins. Puis bon, le comité olympique à l'époque il devait être quand même pas à cheval sur le merchandising comme il doit l'être maintenant, quoi.
C'était
une marque, c'était quand même un esprit sportif de partage.
Ou c'était plutôt d'autres questions du style, bon, alors comment on va faire pour que tous les pays aillent JO à Moscou, ça va être compliqué.
Ouais.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec René Speranza, auteur du livre Occitel Mini, publié par l'association Silicium. Tu as écrit donc un ouvrage qui est édité par Silicium, donc sur la société occitane d'électronique. Quelle a été la plus grande difficulté en fait pour faire ce livre? Je suppose que ce n'était pas de l'imprimer. Rassembler les documents, avoir les témoignages.
Déjà, trouver les pièces, la production de la société occitane, comme je disais tout à l'heure. En 27 ans, on a réussi à trouver à peu près tout ce qui se faisait, ce qu'ils ont fait. Mais c'était non sans mal, et il y a certaines pièces qui sont très très rares, donc on a eu un peu de chance. Et le plus rare, en fait, c'est le témoignage des gens qui ont pu participer. Donc on en a eu quelques-uns, mais pas suffisamment pour lever certaines zones d'ombre. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça.
C'est quand même assez étonnant parce qu'ils ont vendu des wagons de leurs différentes consoles à la fin des années 70, mais finalement les documents étaient assez rares et personne n'avait pensé à faire un ouvrage historique là-dessus. Il y a eu au moins des articles dans la presse spécialisée après coup ou pas du tout ?
Il y en a eu, tant que la société existait de 76 à 80, il y avait des articles dans les magazines économiques, dans les magazines de loisirs électroniques, de jouets, tout ça, il y avait de l'info, voilà. Et puis c'est tout, quoi. Et après, la boîte était sur un créneau qui était relativement passé à la trappe, vers 80. Elle a eu une fin qui a été brutale quand même, c'est-à-dire après un problème de trésorerie, le dépôt de bilan. Et puis je pense qu'il y avait une volonté très relative de continuer pour le fameux Jean-Luc qui était aux manettes, quoi.
Oui, parce qu'il est parti un an et demi avant que la boîte.
Alors je sais pas, ça c'est une zone d'ombre dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, c'est vrai que vers 78, on retrouve sa trace chez Motorola encore à Genève, je crois. Alors que la boîte n'a pas encore coulé, donc je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il avait lâché l'affaire Donc mystère. Après, j'ai eu confirmation aussi que une fois que la boîte a déposé le bilan, il y a une autre structure qui a été montée par d'anciens salariés sur les restes de cette société occitane. Et pour continuer un peu une activité, je ne sais pas exactement laquelle, mais liée autour de ça, quoi. Mais voilà, encore une zone d'ombre.
Et bizarrement, donc, il n'y a aucun salarié de l'époque, aucun dirigeant ou actionnaire de l'époque qui a voulu en parler.
Non, alors les 3-4 que j'ai pu essayer de contacter, alors il faut savoir aussi que la boîte, au début est partie en 76 de zéro employé, et au temps fort était à 30 vers la fin. Il y avait quand même 30 employés qui travaillaient à la société Occitane. Et aucun n'a voulu, de ceux qu'on a pu trouver plus ou moins, dont le fameux Jean-Luc, qui a daigné répondre à nos questions.
Quels étaient les actionnaires de cette entreprise, puisqu'ils sont allés sur leurs capitaux propres?
Oui, alors au début, c'est Jean-Luc qui a monté ça avec une mise de fonds dont je n'ai pas retenu le chiffre, mais qui n'avait pas d'importance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au début, en 76, une petite PME pouvait commencer à envisager de créer du jeu vidéo comme ça, mais rapidement, vers 78, c'était plus possible. Si elle voulait continuer à être compétitive, il fallait injecter de l'argent pour pouvoir changer d'échelle.
Et ça a été surtout, c'est une épée dans l'électronique discrète, on passait à l'informatique.
Donc voilà, ça coûte cher. Et puis après, il y avait des groupes comme Philips qui se mettaient sur les rangs. Ils avaient d'autres moyens, donc il fallait quand même avoir un peu plus de potentiel. Et pour faire ça, ils ont fait appel au groupe TAG, qui est connu, c'était franco-saoudien, qui ont investi un peu quoi, dans la boîte vers 78. Il y a eu un après le Pong, il y a eu une console de jeu et un ordinateur. On va peut-être y revenir, mais c'était notamment les choses où il fallait de l'argent. Donc tant qu'ils ont fait du Pong, tant qu'ils pouvaient, ça coûtait que dalle à produire, à investir.
Surtout que toute la recherche avait déjà été
faite. Voilà, il n'y avait rien à faire. Mais par contre, pour créer un micro-ordinateur et une console à cartouche, là, c'était une autre musique.
C'est le cas de le dire. Oui. Tu es allé à l'INA pour obtenir des documents, comme des reportages télé. Je ne sais pas s'il y a eu des reportages radio à l'époque.
La radio, j'en ai pas vu. Pas entendu, en tout cas, plutôt. Pas vu sur leur base, mais ouais.
Quand tu les as regardés, quel sentiment tu as eu? C'était plutôt complaisant, moqueur?
Alors, on va éviter le regard de reportage qui datait de 40 ou 50 ans, parce que c'est trompeur, on a l'impression que c'est le Moyen-Âge. Bon, c'était France 3 Région, par exemple, le plus intéressant, donc le journal de la 3.
Il y a quand même eu des reportages nationaux, donc...
Par exemple, il y en a eu un, c'était pour Noël 78 ou 79... Et il y a eu un reportage, c'était le journal national de la 2, je crois. Et là, il faisait une étude un peu des jouets qui sera à la mode pour Noël. Et donc, dans le tas, il y avait un journaliste qui présentait la console à cartouche, donc l'OC 2000. Et l'OC, donc
il monte. On va y venir tout à l'heure.
Ouais, donc voilà, ça c'est un truc. Après, il y a eu quelques reportages sur la société. Ça c'est plutôt le régional, avec comment fonctionne la boîte. Comme on peut voir maintenant, quand on regarde le journal de la 3, c'était pareil. Là. Et donc on voit bien. Donc, j'ai mis quelques images dans le bouquin. Issu de ce reportage où on voit Jean-Luc dans la boîte, on voit les monteuses, on voit un ingénieur qui fait des tests sur le banc, on voit quelques vues de l'intérieur de la structure et Jean-Luc est malheureusement, c'est con de le dire, mais il est obsédé par l'argent quoi. On sent bien qu'un chef d'entreprise à la fin des années 70 avec l'inflation et tous ces trucs là, c'était chaud quoi, c'était
ça
chaud.
Ça devait vraiment être compliqué.
Ça devait être très compliqué de gérer une boîte avec là il devait être 7-8
et tout ça.
Ouais, c'est ça, ouais. 7-8 salariés. Donc, lui, ce qu'il se plaignait, c'est que si c'est une musique qu'on entend encore aujourd'hui, c'est le manque d'accompagnement des petites PME dynamiques, parce que, c'était quand même de la technologie. Et il disait que le tissu humain toulousain était excellent, parce qu'il y avait des facs, il y avait des gens formés, tout ça. Donc, ça, c'est intéressant aussi de voir avec le recul ce constat.
On en parlait justement, puisqu'apparemment il y a eu un partenariat avec l'ENSET et tout ça. À côté donc de ce livre, l'association Silicium va produire en série très limitée une console au format mini. Bon, alors tu vas me dire, on était obligés, le rétro gaming, la tendance c'est le mini.
On aurait été en Amérique, on aurait fait une maxi parce que c'est mieux. Elle aurait fait 60 cm de large sur 20 de haut.
Tout ça avec un tout petit truc. Alors justement, puisque là on enregistre quand même en octobre, donc on est au stade de prototype bien avancé.
À la pré-série là.
À la pré-série, c'est plus de la logique discrète par contre. Hein. Non. Ça, vous n'avez même pas osé la logique discrète.
On n'essaie même pas d'être discret sur la logique qu'on y a mis, puisque on va mettre tous les composants et tout le programme et tout en Creative Commons. Donc, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. On s'est servi d'ailleurs de la création d'un gallois. Ça remonte à avant le Brexit, hein. On ne l'aurait pas fait depuis, mais qui avait créé un Pong comme ça sur un microcontrôleur. Et donc voilà, donc il y a une base de microcontrôleur, mais ça reste dans l'esprit de l'Oxitel, c'est-à-dire c'est un composant central, trois bricoles autour, et puis voilà.
Et pour l'idée, c'était pas pour faire du goodies, c'était un hommage,
c'était un
petit truc gag, ou c'était vraiment une envie?
Non, c'est un hommage. En fait, on s'est dit...
Rassure-moi, c'est pas qu'une envie que de toi, les autres membres aussi.
Non, les autres aussi, certains ont du mal à se bouger, d'ailleurs, j'envoie un message, les gars, il faudrait peut-être vous y mettre.
Au moment où c'est diffusé, ça risque d'être un peu tard.
Ouais, alors, et voilà, ouais, donc effectivement, ça fait appel à pas mal de compétences, de l'électronique, mais aussi de la plasturgie. Mm-hmm. Donc on a un de nos membres qui a une boîte de 3D, donc pour la réalisation des boîtiers. Donc on a eu à cœur quand même de faire quelque chose qui ressemble bien, tout dans l'esprit, tout bien comme il faut. On a cédé quand même à la modernité sur certains points, comme par exemple l'affichage. On pouvait pas se permettre de faire un affichage en UHF comme ça se faisait à l'époque.
Oui, puisque les télé analogiques.
Ouais, voilà, ouais, maintenant.
Enfin, si, elles acceptent encore le signal pour pas mal d'entre elles, mais.
Ouais, mais ça marche pas, quoi. On n'arrive pas à la capter parce que c'est pas assez précis, etc. Donc, on sort en composite, on reste en noir et blanc, on a gardé tous les niveaux, les différents jeux. On a gardé aussi les différents niveaux de jeu, c'est-à-dire qu'il y a trois niveaux de jeu, alors que. etc. etc. Enfin, on essaie de faire quelque chose de bien réaliste, jusqu'au package.
Ouais, vous êtes allé très loin, puisqu'il y a une bande de démonstration.
Voilà, on a fait.
Graphique est assez marrante.
Voilà, voilà.
Bien.
Qu'on a
bien
baptisé 3000, parce que l'an 2000, c'est déjà du passé. Et que l'an 3000, on a bon espoir de ne pas le voir.
Et avec les belles couleurs orange et marron qui vont avec.
Voilà,
et qui ne dépareillent pas pour une déco d'ameublement de chez Monsieur Meuble ou Conforama.
Conforama des années 70.
Oui. C'est assez amusant et tout ça. C'est fait quand même. À prix, je vais dire, correct.
Oui, alors
mais
on n'est pas là.
C'est pas de la série, quoi, clairement.
Non. Non, c'est de la petite série. On va en faire. On est parti pour en faire une centaine. Donc, c'est l'édition, comme l'immobilier danois. C'est de l'édition limitée, 100 pièces. Et construit amoureusement par des soudeurs et des soudeuses toulousaines, comme à l'époque. Mmh. Ça, c'est important de le dire.
Alcoolisé
après.
D'accord.
Parce qu'après, les brûlures, c'est pas bon. Et on essaie aussi de faire appel le plus possible à des sous-traitants locaux. Donc que ça soit pour le PCB, donc pour la plasturgie, etc.
Non, ça tombe bien, il y a plein de copains pour le faire. Donc
ouais, et puis pas que, non, parce que le PCB, c'est pas les copains.
On va revenir à l'histoire. Les consoles Pong, c'était joli et pas cher, mais elles furent vite passées de mode. Donc la société Occitane d'électronique a tenté de se refaire sur les consoles de jeux à microprocesseurs. Et donc, l'OC2000...
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est dedans ?
L'OC2000, c'est un... Alors, déjà, les Pong, c'est pas très connu, mais alors, l'OC2000, c'est carrément inconnu, quoi.
Ah oui, non, mais...
Personne connaît, il y en a eu très peu. Alors, je sais pas combien de pièces ils en ont vendu, mais à mon avis, c'est quelques milliers au mieux. Et donc, l'OC2000, c'est à rapprocher des consoles à microprocesseurs originels, c'est-à-dire l'Atari 2600, et la Philips Videopac, pour parler des premières qu'on a vues vers chez nous.
Qui était la Magnavox 2, en plus.
Oui, qui était une Magnavox.
La Odyssey 2, pardon, excuse-moi.
Ouais, c'était une Magnavox à la base, et que Philips a racheté. Mmh. Et donc, pas évident, parce que d'abord, le coût du microprocesseur était relativement élevé. Mais ce challenge valait le coup parce que, comme je disais au début, pour un constructeur, c'était la possibilité après de vendre des cartouches avec des jeux tous différents et il y avait un potentiel énorme. Donc je pense que ça, ils l'ont bien compris. C'était assez intelligent quand on regarde ce qui s'est passé après. Ça leur a demandé quand même beaucoup d'investissements. Et pour arriver à ces investissements, ils ont feinté. Ils ont trouvé deux biais. Le premier, c'était de faire appel à, on va dire, un kit préfabriqué. Déjà, ouais. Comme avec le composant General Instrument, c'était un peu plus savant. Il y avait des composants de Signetix, qui était un créateur de microprocesseurs, un fondeur américain, qui a, comme par hasard, été racheté par Philips. Et donc, Philips avait développé vers 77-78 un système avec quelques jeux dessus et pour voir s'ils pouvaient faire une console. Et puis, ils avaient racheté Magnavox et Magnavox avait de son côté travaillé à l'Odyssey 2, donc la Videopac, qui était quand même beaucoup plus intéressante. Donc, du coup, je pense qu'ils ont dû se dire. On va pas jouer deux chevaux sur le jeu vidéo, on va en faire qu'un, on va choisir la console de Magnavox. Et puis comme on n'en fait rien de ce jeu de composants avec les bricoles qu'on a écrites, on va le céder à Elector, qui est un éditeur de magazine de vulgarisation électronique hollandais, comme Philips. Et donc c'est Elector qui a récupéré ça et qui s'en est servi comme base de l'apprentissage des jeux vidéo, de la programmation de microprocesseurs dans le magazine, donc façon feuilleton.
Donc en clair, c'était les jeux qui allaient arriver, c'était des jeux qui étaient déjà publiés dans les magazines, qu'ils ont adapté de leur côté.
C'est ça. Alors
changer deux trois petites variables pour.
Ouais, il y a pas que ça, mais ouais, c'est un peu ça. Donc,
Ça veut dire que c'était pas vraiment là non plus complètement de la création.
Pas complètement, ouais. Très peu même. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc Philips a donné tout ça à Hector. Il y avait aussi la création d'un BIOS, on va dire, un BIOS qui permettait de créer les jeux dessus, tu vois. C'est vrai que c'est assez complexe, ça, comme part de l'histoire, et il y a beaucoup de zones d'ombre. Mais après, ils se sont adressés, donc la société Occitane, comme de nombreux autres constructeurs, se sont adressés à Elector pour obtenir ces jeux de composants et avec le BIOS, et quelques jeux qui ont été développés par Elector pour servir d'application.
Tutoriel.
Ouais, voilà, d'application. Voilà, et on les voit dans le magazine, on les retrouve après, soit chez la société Occitane, soit chez d'autres constructeurs qui ont fait les mêmes genre de console. Par exemple, en Allemagne, il y a eu Interton, qui est une marque allemande qui a bien marché en Allemagne parce qu'il fait froid et qu'à la maison, c'est cool d'avoir des jeux vidéo. Donc, c'est pour ça que l'Allemagne a toujours été plus enclin, on va dire, à tous ses loisirs électroniques. Mais malgré tout, la société Occitane a essayé de développer ce potentiel en interne. Donc, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Le premier truc intéressant, c'est l'adaptation du système d'Elector pour transformer la console en ordinateur. Donc
oui,
voilà.
Parce que c'était une des questions, c'est comment on programmait des jeux dessus. Donc ça veut dire qu'on pouvait en faire un ordinateur. Ça devait être génial.
Alors oui et non. C'était génial parce que bon, on est quand même en 78, hein, donc la possibilité de s'acheter une console qui devient un ordinateur pour 1500 francs à l'époque, c'était quand même pas mal. Il y avait du graphisme, il y avait de la couleur, du son, pas mal du tout. Après,
pour donner un an d'idée, je crois que le SMIC à l'époque était de 2000 francs, je crois. Un truc
ouais, c'était. Et puis ouais. Après, dans le même esprit, le premier ordinateur, il valait bien plus, et les consoles qu'il y avait, c'était bidon, quoi. Il y avait rien qui pouvait rivaliser. Donc il y avait un truc à faire là. Et d'ailleurs, on parlait de l'INA et puis d'un reportage pour Noël. Le gars montrait ça. Il montrait à la télé les jeux avec des cartouches, puis après la possibilité de les programmer. Donc il y avait une grosse cartouche et puis un magnétocassette qui permettait de faire des sauvegardes de ce qu'on écrivait. Malheureusement, c'était quand même assez complexe, quoi. Ce n'était pas du basique comme on a pu connaître un petit peu plus tard, qui avait le mérite suprême de pouvoir être simple à utiliser. Mise en œuvre en trois lignes, ça marchait.
Non, c'était une espèce d'assembleur. En fait,
ouais, c'est une espèce d'assembleur comme il y avait eu d'ailleurs chez Magnavox avec l'Odyssée 2. Et puis, pour l'auditeur, il faut savoir que la manette de l'OC 2000, il y avait un petit joystick infâme. Et puis dessous, il y avait un petit clavier sensitif façon Digicode. Et donc, si on mettait les deux claviers Digicode à côté, on avait un pseudo clavier digne du plus mauvais des Sinclair.
24 touches.
Ouais, voilà, ouais. Et avec ça, on arrivait sur un écran où il y avait rien, puis il fallait mettre des mnémoniques. Enfin, c'était immonde. Hein. Mais le fan qui avait envie de s'initier à la formation de l'électronique et de l'informatique, c'était merveilleux.
Bon. Ça devait être quelque chose, ouais.
Ouais, ça devait être quelque chose. Donc on a la chance d'avoir ce système. On a la chance aussi d'avoir une machine de développement qu'on n'a jamais réussi à faire marcher parce qu'il y a des
oui, puisque quand même ils avaient des systèmes de
ouais, bah oui.
Développement qui étaient un peu plus sérieux. Ouais.
Pour essayer de mettre tout ça en avant, vu que ça coûtait quand même beaucoup, un autre biais pour essayer d'avancer, c'était de faire appel à un partenariat avec une école d'ingénieurs. Donc au hasard à l'ENSET à Toulouse, et donc à l'ENSET il y avait des étudiants et des chercheurs qui ont travaillé dessus et qui ont développé des choses. Donc on a dans le bouquin on a quelques photos, dont une où on voit une position de développement d'un des étudiants chercheurs qui tentait avec force matérielle d'écrire quelques jeux. Donc il y a quelques jeux originaux sur l'OC 2000 qu'on retrouve pas chez d'autres constructeurs de cette même console à base de microprocesseurs. Cygnetics. Je ne sais pas si tout le monde suit, peut-être certains s'endorment, mais voilà, c'était tout pour la partie technologique.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec René Speranza, auteur du livre Oxitel Muni, publié par l'association Silicium. Alors, j'ai découvert qu'avant le plan informatique pour tous, qui était celui des Thomson TO7 et MO5, et donc dans les années 80, il y a eu un premier plan informatique à l'enseignement, le plan 10 000 micros. Qui l'a initié ?
Ah ben le gouvernement. Qui d'autre ?
Oui, mais le gouvernement période Giscard.
Oui. C'était la bonne droite qui va bien, là. Et alors à cette époque-là, Jean-Luc cherchait des fonds, et comme dans toutes les boîtes, les petites PME, ils cherchaient à se développer, donc ils ont demandé des attributions de fonds pour pouvoir se développer, et je pense que c'était pas les seuls, et donc le ministère de l'Industrie, en accord avec le ministère de l'Enseignement, ont décidé d'équiper les premiers lycées. Alors au début, ça a été, avant le plan 10 000 micros, c'était 58 lycées, donc 58 lycées qui ont été dotés avec des mini-ordinateurs français, des Mitra, pour ceux qui connaissent, Mitra 15.
Ah, ils ont été richement dotés.
Ouais, mais à l'époque, ça valait une fortune. Avec toujours derrière l'idée de faire marcher l'industrie française, ce qui est tout à fait louable, que l'argent du contribuable serve à acheter de l'industrie française.
Et donc, à préparer le non-futur chômeur.
Oui,
donc,
mais
ils ont fait ces premières machines, et eux, ils sont arrivés, en fait, avec leur concept pour la deuxième phase du plan.
Donc première phase, le Mitra, un peu compliqué, aucun personnel formé pour utiliser des trucs comme ça, c'était pas possible.
J'imagine le prof d'histoire géo. Alors, vous allez apprendre avec moi le...
Vous allez être le référent informatique. Le référent quoi ? Ouais, non.
Oh, ok.
Donc, cette opération 58 lycées, où je pense qu'a conclu que le besoin était évident. Il fallait que la jeunesse soit formée à l'informatique, mais que d'un autre côté, il n'y avait pas les moyens. Donc, ils ont dit que la micro-informatique pointe. Et en 1979, ils ont décidé de lancer le plan 10 000 micros. Donc, l'idée était de fournir 10 000 micro-ordinateurs dans le secondaire. Et ils ont commencé avec deux sociétés françaises. Logabasque, qui est une boîte parisienne, Créteil.
Contrairement à ce que le nom pourrait faire croire.
Ouais, à la base, je crois que c'était un Espagnol qui l'a fondé. Mm-hmm. Mais c'était une société française qui faisait des machines à calculer, des machines orientées pour la gestion, puis des ordinateurs, des micro-ordinateurs. On a quelques exemplaires de ces excellentes productions françaises. Et donc, ils avaient conçu un micro-ordinateur et voilà, ils ont été sélectionnés. Et en même temps qu'eux, il y a eu la société Occitane qui a eu droit aussi à fournir un ordinateur qui s'appelait le système X1 comme société Occitane.
Et quelles étaient les caractéristiques de ce X1 ? Alors, avec un nom qui fleure bon les OSS 117.
Ouais, le X1, ça fait un peu mur du son, mais à la française, donc. En mobilette, le mur du son en mobilette, passer le mur du son en mobilette avec le système X1. Alors, toujours pareil. Hein.
Moto-bécane.
Ouais, Jean-Luc, il va toujours piocher les bonnes idées ailleurs. Comme c'était un ancien de Motorola, je vous le donne, Emile. Il est allé chercher des systèmes à base de microprocesseurs Motorola qui existaient déjà et qui permettaient de faire un ordinateur intégralement. Quoi.
Parce que si j'ai bien compris, en fait, le X1, c'est un fond de panier avec des connecteurs standards, des cartes standards fournies par Motorola. Et donc,
les cartes ne sont pas fournies par Motorola. Effectivement, c'est un fond de panier qui s'appelait Exorcizer chez Motorola. Et ce fond de panier permettait de mettre dedans une carte avec un processeur, une carte avec de la mémoire, peut-être deux, etc., des entrées sorties, la vidéo. Donc c'est un système évolutif qui se faisait beaucoup au début de la micro-informatique. Ça a été rapidement été abandonné pour la micro parce que ça revenait cher, quoi. Il faisait beaucoup de cartes, il fallait mettre un fond de panier, c'était contraignant.
Ça fait du volume en plus, et puis, avec les connecteurs et tout ça.
Voilà, et puis après, avec la miniaturisation, on met de plus en plus de choses sur la carte mère, puis à la fin, on se retrouve avec une carte mère qui fait tout. Mmh. C'est ce qu'on retrouve dans les Commodore 64 et autres Thomson, au hasard.
Il y a eu beaucoup d'exemplaires. La SOE, ils ont fait 10 000 micros X1.
Non,
enfin,
alors
5 000,
non. Alors le plan de 10 000, hein, c'est à la française, c'est-à-dire c'est sur plusieurs années, et puis on verra.
Donc au début, avec une montée en budget, mais à la toute fin.
Oui, c'est après les élections. Et donc, ils étaient partis pour en faire 250 chacun, donc Logabax et la société Occitane. Et malheureusement, ils n'ont pas pu tenir leurs engagements. Et ça, c'est
ni
pas de chance.
Ni l'autre.
Si, Logabax a tenu. Mais la société Occitane a eu un problème de trésorerie. Alors, j'ai jamais trop su les raisons exactes du problème. J'ai pas réussi à avoir les textes.
On va y venir tout à l'heure.
Les textes, ouais, de ça. Mais bon. Et ce qui fait qu'une fois qu'ils n'ont pas pu tenir leurs engagements, ils en ont vendu, à mon avis, une petite centaine. Ils ont été obligés de changer de prestataire et ça a été Micral, la R2E, qui est Micral de la célèbre société de François Jernel qui a conçu le premier micro-ordinateur du monde.
C'est intéressant parce que donc apparemment Silicium, d'après ce que j'ai compris, vous avez le seul exemplaire de X1 qui soit en état de fonctionnement.
Alors j'allais.
Je vais pas te demander de l'allumer. Celui-là.
Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est chez le garagiste.
Il a une carie.
Ouais, une grosse. Il a plutôt un problème coronarien dur. Alors il fonctionnait, n'est-ce pas?
Au moment de l'écriture du livre.
Non, avant. Au moment de l'écriture du livre, il avait déjà eu une attaque cardiaque. Mais on a bon espoir de le refaire fonctionner. Et jusqu'à vieux micro, c'était le seul exemplaire connu dans le monde. T'imagines ça, dans le monde. Et il y a un visiteur qui est venu et qui nous a dit « On en a un !» Comme quoi, il y en a deux. Enfin, un et demi parce qu'ils n'ont pas de clavier. Et c'est une épave, mais ça fait plaisir de voir qu'il y en a deux exemplaires, quoi.
Ce qui est intéressant d'ailleurs de lire, c'est que le X1, on se dit, ça a pas dû être visible tant que ça dans les lycées. Et malgré tout, il y a pas mal de témoignages.
Et oui.
Sur le forum, notamment le vôtre.
Même dans le livre, j'en ai mis.
Ouais, que apparemment des gens se souviennent d'un basique particulièrement buggé.
Voilà, il faut savoir être impartial. Et ce livre n'est pas une diatribe contre la société Occitane, ni une hagiographie de son créateur. On essaie d'être factuel, et donc les témoignages, quand bien même on n'a pas eu les principaux, on en a eu, et notamment des témoignages modestes, mais qui éclairent quand même la situation. Et effectivement, le système X1 était ultra buggé, visiblement, les gens ont eu un très mauvais souvenir à l'école. C'est vraiment pas de chance.
Ça a été un petit peu le champ du cygne de l'entreprise, apparemment. D'après ce que j'ai compris, la SE faisait une bonne partie de son chiffre d'affaires justement par les marques blanches. Et apparemment, c'est un peu ce qui les a tués.
Oui. J'ai pas les détails précis. On parle beaucoup de la société Grundig, et pour lesquels ils devaient fournir la console, l'OC2000. En fait, c'est pas le X1 qui leur a coûté cher, même si ça devait coûter cher. Et donc, ils avaient un arriéré financier avec eux qui leur a été fatal. Voilà la version que j'en ai eue sur les raisons du pourquoi, à cause de qui la société a coulé.
On enregistre en octobre, le bouquin était sorti pour l'événement Vieux Micro. Est-ce que du coup tu l'as envoyé à des anciens salariés, des contacts, voire donc à ce fameux Jean-Luc Grand Clément?
Non, je ne sais pas si je vais lui envoyer, mais on est en train d'envoyer, c'est prévu, donc en octobre on n'a pas encore fait, parce que voilà, mais je vais envoyer le bouquin à tous ceux qui ont bien voulu témoigner, de l'ENSET, des choses comme ça, des gens qui ont parlé... de cette époque, quoi, avec intérêt. Et certains, quand même, ont trouvé les choses intéressantes. Le souvenir qu'ils en ont est vivace et encore coloré, d'un bel orange.
Alors, il y a une grande compétition entre les associations historiographiques de l'informatique et notamment les copains de MO5.
Ah, il n'y a pas de compétition, non.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah mince, une marque française qu'on n'a pas réussi à retracer jusqu'au bout.
Je ne sais pas, ça faudra leur demander. Non, il n'y a aucune compétition. Ouais, déjà que c'est difficile, hein. Tout seul, on a du mal à survivre. Je pense que c'est valable pour tout le monde. Je dis aux Toulousains et au-delà aux Français, rejoignez-nous et venez nous aider à sauver ce patrimoine, parce que la société Occitane dont on parle, ça fait presque 50 ans que tout ça a été vécu. Et 50 ans, en temps humain, ça commence à faire. Ça veut dire que c'est ce qui a un peu précipité à l'urgence de créer ce livre et de rassembler toute l'info et la mémoire qu'on avait, c'est que bientôt, il n'y aura plus moyen d'avoir quoi que ce soit, plus aucune info du vivant, quoi. Même les machines, on a de moins en moins de choses originales. Donc, c'est important.
René, merci beaucoup.
Mais avec plaisir.
Et donc, je suis impatient de reprendre une partie de Pong avec toi.
Eh bien, écoute, on va jouer sur une console d'origine qui fleure bon le cassoulet et la violette.